Vous êtes sur RTL.
12h30.
RTL Midi, Amandine Bégaud, Pascal Pro.
RTL 12h30, 14h30 et 2h d'infos, de débats. Et l'info, ce sera avec Amandine, comme tous les jours, jusqu'à 13h. Bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour à tous. Et à la une, un enfant de 7 ans raccompagné chez lui par la police, tout ça pour un payé de cantine. Éric Zemmour qui arrête son émission de télé et puis doubler le salaire des enseignants, c'est la proposition d'Anne Hidalgo. RTL, vous le verrez, a sorti la calculette.
Et je l'ai dit juste après le journal, deux débats. Et si c'était une femme pour la présidentielle, je veux dire une femme élue. Et puis on évoquera le pass sanitaire. La France est-elle le bon élève du moment ?
C'est notre question du jour. Voyez-vous une femme à l'Élysée en 2022 ? Vous dites oui à 52%, non à 43%. On en parle donc dès 12h40. Côté ciel, notre météo, c'est avec vous, Louis Baudin. Bonjour Louis.
Bonjour Amandine, bonjour à tous.
Des températures encore bien agréables
oui,
aujourd'hui.
Oui, c'est ça. Ça sera peut-être d'ailleurs la journée la plus chaude de la semaine, déjà, avec des températures qui vont grimper par rapport à ce week-end. 20 à 23 degrés, par exemple, près de la Manche. 24 à 28 degrés dans les autres régions de la moitié nord et 28 à 31 dans le sud. On ira même parfois jusqu'à 33 degrés dans la vallée de la Garonne. Pourquoi ? Parce qu'il y aura encore beaucoup de soleil, même si au fil des heures, le ciel devient un petit peu plus nuageux près de l'Atlantique, notamment entre la Bretagne et les Pyrénées, avec un risque d'averses, voire d'orages en fin de journée, notamment au sud de la Garonne. Quelques nuages également autour du golfe du Lion. Puis plus on ira vers l'est, plus ça restera très ensoleillé, notamment des Alpes à l'Alsace.
Merci Louis, à tout à l'heure.
RTL Midi.
Et pour commencer donc cette histoire qui interpelle, un élève de 7 ans raccompagné chez lui par un policier parce que sa mère ne payait pas la cantine. Ça s'est passé la semaine dernière à Saint-Médard en Guisière, c'est en Gironde. Philippe de Maria, bonjour. Vous
bonjour.
Êtes sur place pour RTL. La mère de l'enfant se dit très choquée par la méthode.
Oui, alors son fils se voit d'abord refuser l'accès à la cantine. Ensuite, un agent municipal le confie à un policier, lui aussi municipal, qu'il ramène chez lui en voiture à seulement 100 mètres de l'école. Écoutez Shirley, la maman.
Suite à mon impayé de cantine, la mairesse a pris l'initiative de faire accompagner mon fils à l'heure de la restauration scolaire à mon domicile par le policier municipal, devant tout le monde, devant tous les élèves, devant tous les parents présents bien sûr. Ça m'a fait beaucoup de mal qu'on se prenne à lui, un enfant de 7 ans, pour justement m'atteindre à moi.
Alors Shirley a une dette de cantine de 900 euros. La maire de la commune affirme avoir épuisé tous les recours pour qu'elle la règle enfin. Mireille, Comte-Jobert.
L'enfant est parti avec le sourire parce qu'il montait dans la voiture d'un policier municipal. Et même ses copains l'enviaient parce que ils avaient envie, eux aussi, de monter dans une voiture de police. C'était une décision difficile à prendre. C'est la première fois que je la prends. Mais devant l'attitude de la maman, je n'avais pas d'autre solution pour réussir à lui faire entendre raison.
Et l'élu affirme que des donateurs anonymes se proposent depuis ce matin de régler la dette de cantine de Shirley.
Merci beaucoup Philippe. Philippe de Maria en Gironde pour RTL. La suite à présent du feuilleton Zemmour. Il n'est toujours pas officiellement candidat, mais le polémiste ne sera plus à l'antenne tous les jours sur CNews. La chaîne l'a annoncé ce matin.
Je pense que c'était inévitable. Je pense que le CSA l'a fait exprès, l'a fait volontairement et après mûre réflexion pendant le week-end, on a bien compris que c'était la seule solution raisonnable. Vous savez, quand on ne peut pas résister, il faut rompre et résister ailleurs.
C'était inévitable, disait ce matin Éric Zemmour sur CNews. La situation, en effet, devenait difficilement tenable, Vincent Derosier.
Absolument, et on rappelle les faits. Mercredi dernier, le CSA demande aux médias de décompter le temps de parole du polémiste. En tout cas, ses interventions sur la politique national. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel juge alors qu'Éric Zemmour peut être considéré comme un acteur du débat politique, même si il n'est pas encore officiellement candidat. Canal+ a donc pris le temps de la réflexion avant d'annoncer ce matin qu'Éric Zemmour est écarté de cette émission quotidienne Face à l'info à partir de ce soir. Programme phare de la chaîne CNews qui rassemblait en moyenne 700 000 téléspectateurs en moyenne l'an dernier. Éric Zemmour regrette cette décision, on vient de l'entendre et il a pu s'en expliquer chez vous ce matin Pascal, puisqu'il était l'invité de l'heure des pros sur CNews. Enfin, rappelons-le, c'est aussi la fin de la collaboration avec Le Figaro. Il a cessé ses chroniques depuis la rentrée pour se consacrer à la promotion de son livre. Son avenir dans le journal est lié à son destin politique.
Et le CSA a donc créé un statut particulier, spécialement pour Éric Zemmour, de présumé candidat, si j'ai bien compris.
Alors non, parce que figurez-vous, Pascal, que le temps de parole est décompté dès lors qu'un personnage est considéré comme acteur du débat public. Arnaud Montebourg, par exemple, depuis le mois d'avril, son temps de parole est décompté. Il n'était pas encore candidat. C'est la même chose pour Michel Barnier, avant même qu'il soit candidat à la primaire.
Qui sont des hommes politiques. Moi, je veux bien qu'on décompte tous les temps de parole de tous les éditorialistes et journalistes de France, mais c'est quelque chose qui est intéressant.
Ce sera un débat, mais dès lors qu'on est considéré comme acteur du débat public et que les politiques sont interrogées sur ces questions, c'est ce que considère le CSA Éric Zemmour. Je vous le précise, qui sera demain l'invité d'Alba Ventura sur RTL, ce sera à 7h40. Elle est désormais officiellement candidate. Anne Hidalgo dit vouloir doubler le salaire des enseignants si elle est élue. De la pure démagogie, répond ce matin Jean-Michel Blanquer dans les colonnes du Parisien. L'actuel ministre de l'Éducation nationale estime que cette mesure coûterait 150 milliards d'euros. Marie Guerrier, bonjour.
Bonjour.
Vous avez regardé les chiffres et sorti votre calculette.
Oui, alors la rémunération des personnels de l'éducation nationale, c'est un budget d'un peu plus de 50 milliards d'euros par an. Les salaires d'1 200 000 personnes, dont près de 870 000 enseignants. Doubler leur rémunération tout de suite, en une fois, ça ferait grimper le budget à 100 milliards par an. À la fin du quinquennat, voilà, l'augmentation aurait coûté 250 milliards d'euros supplémentaires. Si l'objectif est d'avoir doublé la rémunération des enseignants d'ici à la fin du quinquennat. Alors là, on peut y aller progressivement. Par exemple, en divisant la masse salariale actuelle par 5 ans, et ça fait 10 milliards. 10 milliards qui vont s'ajouter et se cumuler d'année en année. 10 la première année, 20 la deuxième, 30 la troisième, etc. pour atteindre au total 150 milliards d'euros d'augmentation du budget rémunération de l'éducation nationale sur 5 ans. Donc ça concerne tous les personnels, c'est ce que je vous disais. Si on s'en tient juste aux enseignants, ça pourrait être un peu moins, mais c'est cette fourchette.
Marie Guerrier, spécialiste éducation ici à RTL. Le Covid à présent, et c'est aujourd'hui que débute la campagne de rappel en EHPAD. Bonjour Agathe Landais. Vous êtes dans un établissement du 13e arrondissement de Paris. 7 résidents ont reçu ce matin leur 3e dose.
Oui, c'est le cas de Madeleine, vaccinée fin décembre et qui donc vient de recevoir son injection.
Je vais vous piquer, hein, d'accord ?
Oui.
Voilà, c'est fait.
C'est fait. Allez, hop. Voilà.
À 98 ans, cette résidente a tout de suite accepté de faire son rappel.
Je le fais parce que je suis une personne raisonnable, voilà. On est venu me dire, est-ce que vous acceptez de faire la 3e injection ? J'accepte. Il y a tout de même eu beaucoup, beaucoup de décès. Alors, c'est plutôt pour l'exemple que je le fais.
Avant sa piqûre, Madeleine a donné, comme tous les résidents, son consentement sans aucune inquiétude. Le docteur Jean-Marie Nguyen est médecin coordonnateur.
Le consentement à recueillir était beaucoup plus facile. Le fait que les premières séries de vaccination se soient bien déroulées et qu'on a eu quasiment aucun effet indésirable fait que les gens n'ont plus les mêmes craintes qu'ils avaient auparavant. Et le fait que toute la population française se vaccine fait aussi que ils sont bien au courant de ce qui se passe et je crois que la plupart étaient partants pour se faire vacciner.
Cette EHPAD compte au total 94 résidents, tous vaccinés début 2021. Tous vont donc bien recevoir leur rappel dans les jours à venir.
Merci beaucoup Agathe Landais à l'EHPAD Péan dans le 13e arrondissement de Paris. À partir de mercredi, vous le savez, tous les soignants et personnels qui travaillent en EHPAD auront obligation d'être vaccinés. À ce jour, selon les derniers chiffres, 88,9% des personnels des EHPAD ont reçu au moins une dose. 84,8% ont un schéma complet de vaccination. On vous en parlait dès ce matin sur RTL, l'appel de ce papa qui s'est vu retirer ses enfants avec qui il vivait depuis 3 ans, un garçon de 10 ans et une petite fille de 11 ans, qui ont été remis à leur mère. Problème, dit le père, celle-ci vit avec un homme soupçonné de violence et d'inceste. Bonjour Patrick Hisson.
Bonjour.
C'est vous qui suivez cette affaire pour RTL. Vous avez pu contacter l'avocate de la maman et elle l'assure, le droit a tout simplement été respecté.
Oui, le droit qui a été retenu par la juge des affaires familiales pour l'avocate de la mère, Françoise Dupuis, c'est notamment parce qu'il avait enlevé ses enfants que la décision a été prise. Une décision logique selon elle, même si le beau-père est soupçonné de viol incestueux.
Quelle que soit la personne dont vous parlez, en tout état de cause, on ne peut pas se faire justice à soi-même. Et il y a des limites à ne pas dépasser. Les enfants sont en totale sécurité avec ma cliente.
Mais le papa des enfants, Marc Martin, a décidé de contre-attaquer. Selon lui, son fils et sa fille sont en danger. Il souhaite dès aujourd'hui rencontrer le garde des Sceaux à Montpellier et dans le pire des cas, trouver une autre solution pour les enfants.
Cette situation, ça aurait pu être évitée
dans le sens où, bah, dans ces cas-là, placer les enfants en famille d'accueil où il n'y a pas de danger comme ça. C'était le plus logique à faire, pas de les remettre avec leur maman où je dis bien, quelqu'un est accusé d'inceste qui vit là-bas. On me reproche d'être peut-être trop anxiogène, mais qui ne le serait pas? Les enfants sont très heureux. Je demande aussi à tous les papas et à toutes les mamans de se réveiller. Vos enfants sont en danger avec de telles lois.
Et le papa est extrêmement inquiet car depuis jeudi dernier, date du départ de son fils et de sa fille, il est sans nouvelles de ses enfants.
Récit signé Patrick Hisson pour RTL.
3 ans après le scandale qui a secoué l'Élysée, l'heure du procès pour Alexandre Benalla.
L'ancien chargé de mission au cabinet d'Emmanuel Macron sera jugé cet après-midi à Paris. Guillemette Franquet, que lui reproche-t-on ?
Tout d'abord, les violences pendant les manifestations du 1er mai 2018 à Paris. C'est ce qui a lancé l'affaire Benalla proprement dite. Ce jour-là, Alexandre Benalla interpelle violemment des jeunes dans le Jardin des Plantes, puis place de la Contrescarpe. Il était pourtant venu en simple observateur auprès des forces de l'ordre. On lui reproche également d'en avoir porté les attributs. Casque de CRS, radio, Acropole. Scandale dans le scandale, des fonctionnaires de la préfecture lui remettent les bandes de vidéosurveillance de l'interpellation. Deuxième volet, Mediapart exhume un selfie d'Alexandre Benalla avec un pistolet. Il comparaît donc pour port d'armes sans motif légitime. Et enfin, un troisième volet de l'affaire, les passeports diplomatiques. L'ancien conseiller d'Emmanuel Macron aurait continué à voyager avec ses papiers alors qu'il aurait dû les rendre. En tout, Alexandre Benalla comparaît pour 12 infractions.
Guillemette Franquet du service police-justice d'RTL. Du foot et des nouvelles rassurantes de Dimitri Liénard, ce joueur strasbourgeois qui a fait un malaise hier lors du match face à Lyon. C'était juste un petit coup de moins bien, a-t-il expliqué. J'ai été malade ces 2 derniers jours, ma tête s'est mise à tourner, j'ai vu quelques étoiles, mais je vais bien. Dimitri Liénard est d'ailleurs rentré en avion dès hier soir avec le reste de l'équipe. Et puis sachez qu'Emmanuel Macron recevra ce soir à l'Élysée les médaillés français olympiques et paralympiques des Jeux de Tokyo, cérémonie à partir de 18h au total. Ce sont 213 athlètes tricolores qui sont revenus du Japon avec une médaille dans leur bagage.
Nos deux débats à suivre, comme tous les jours désormais, la présidentielle. Et si c'était une femme, la France est-elle prête ? Anne Hidalgo, Marine Le Pen ou Valérie Pécresse ? Et puis le deuxième débat, ce sera le pass sanitaire. Est-ce que la France est le bon élève du moment ? À tout de suite.
Au 32-10, RTL vous donne la parole. 50 centimes. RTL Midi, avec Amandine Bégaud et Pascal Praud.
J'ai décidé d'être candidate à la présidence de la République française.
C'était hier à Rouen. Anne Hidalgo devenait la 10e femme à se lancer dans la course à la présidentielle pour 2022. 10e femme candidate et ils sont déjà 22 du côté des hommes. Pour info, depuis 1944, seules 12 femmes ont franchi la barrière des parrainages et se sont présentées officiellement à l'élection présidentielle française. 2 seulement ont franchi le premier tour, Ségolène Royal en 2007 et Marine Le Pen en 2017. L'occasion pour nous de s'interroger. Et si c'était une femme ? C'est le premier débat d'RTL Midi. Bonjour Mariette Sino.
Oui, bonjour.
Vous êtes chercheuse honoraire au CEVIPOF, le Centre de Recherche Politique de Sciences Po. Vous avez beaucoup travaillé sur ces questions-là, la question des femmes en politique, les femmes au pouvoir. Est-ce que cette fois-ci sera la bonne ?
Écoutez, vous parlez en termes de candidature ou en termes d'élection ?
Est-ce que vous, et si c'était une femme, vous diriez oui, pourquoi pas en 2022 au regard de la situation actuelle ?
Écoutez, non, au regard des candidatures et des rapports de force, ce qu'on observe, c'est une dispersion des candidatures à gauche, très grande dispersion, et une dispersion également à droite. Par conséquent, ce type de configuration de candidature ne préjuge guère d'avoir un candidat ou de la gauche parlementaire ou de la droite parlementaire qui arrive en tête.
Et pour être très clair, pardon, les Français sont prêts à voter
pour une
femme ?
Les Français sont très prêts. On doit signaler le grand écart entre, je dirais, l'antiféminisme des élites politiques et le très grand féminisme de l'opinion publique. Et je rappelle à cet égard qu'un sondage réalisé en décembre 2019 pour RTL d'ailleurs, sondage Louis Harris, montrait que plus de 70% des Français estimaient qu'une femme présidente de la République serait souhaitable. Donc, si vous voulez, là, c'est le fruit d'une évolution spectaculaire des représentations, car je rappelle que 50 ans en arrière, en 1974, il y avait 69% des Français qui étaient alors opposés à ce qu'une femme soit présidente de la République. Donc, si vous voulez, du côté de l'opinion, le temps des femmes est bien advenu. C'est pas là que ça bloque.
Madame Sino, qui est chercheuse au CVPOF, j'ai le sentiment que c'est plus facile lorsqu'on est à gauche de réussir quand on est une femme que lorsqu'on est à droite. Et je regardais la liste des grandes, des maires des grandes villes. Je m'aperçois qu'il n'y a pas de maire femme d'une grande ville à droite. En revanche, vous avez Martine Aubry à Lille, vous avez Johanna Roland à Nantes, vous avez évidemment Anne Hidalgo à Paris qui pilote des grandes villes. Est-ce que c'est une réalité sociologique ?
Ben oui, c'est-à-dire que historiquement, si vous voulez, la gauche a quand même beaucoup plus porté les valeurs du féminisme que la droite. Maintenant, c'est une chose un peu mieux partagée à droite, mais historiquement, le féminisme est plus ancré à gauche qu'à droite.
Ça, est-ce que les électeurs suivent cette ligne ? Est-ce que, par exemple, quand vous êtes à droite, vous avez plutôt envie d'un homme et que quand vous êtes à gauche, peut-être que vous êtes plus ouvert à une candidature féminine.
Écoutez, il faut se méfier de tout essentialisme. Le vote est quelque chose de complexe et on ne vote pas pour un candidat parce qu'il est un homme ou pour une candidate parce qu'il est une femme. Derrière, il y a un projet, il y a des idées, il y a une incarnation. Donc tout cela est complexe et il faut se garder effectivement, encore une fois, d'essentialiser.
Donc je n'aurai pas de réponse à ma question.
Comment ?
Je dis, je n'aurai pas de réponse à ma question. Si l'électeur de droite aime plus les hommes et l'électeur de gauche est sensible aux femmes.
Enfin, si vous voulez, il suffit qu'il y ait une incarnation qui plaise aux électeurs de droite. C'est pas rédhibitoire. Là aussi, les électeurs de droite ont progressé et admettent de plus en plus qu'une femme se porte candidate, y compris à la magistrature suprême.
Mariette Sino, je voulais juste vous faire écouter Emmanuel Macron le 8 mars 2017. Alors, il ne s'agit pas de la présidentielle, mais de la question de Premier ministre. Écoutez.
C'est plutôt mon souhait. Après, je ne vais pas choisir un Premier ministre parce que c'est une femme. Je choisirai le Premier ministre le plus compétent possible, avec le souhait et la volonté que ce soit aussi une femme.
Mariette Sino, on vient d'entendre Emmanuel Macron, à l'époque candidat, donc prêt à nommer une femme Premier ministre, à condition qu'elle soit au moins aussi compétente. Ça veut dire quoi ? Qu'elles sont, à l'heure actuelle, si elles n'occupent pas ces postes-là, moins bonnes que les hommes qui sont en lice ou...
Bah, écoutez, non, mais si vous voulez, c'est encore une fois beaucoup la misogynie. Rappelez-vous quand Mitterrand a nommé, il a fait une grande rupture symbolique en nommant une femme à l'hôtel Matignon, et ça a été un déchaînement, y compris
c'était
de la
part
de... ses camarades de parti. Oui, mais si vous voulez, tout n'est pas effacé et il reste des résistances très fortes, notamment de la part des hommes de parti.
Ce qui est intéressant aussi de voir, c'est qu'au-delà de la misogynie du moment, il y a aussi une tradition, si j'ose dire française, c'est que les femmes n'accédaient pas au trône. La loi salique en France a existé durant toute la période de la monarchie et il y a eu parfois des reines en Angleterre. En France, il n'y a pas jamais. Il n'y a eu aucun chef d'État femme depuis la nuit des temps.
Ben, vous avez raison de le souligner. Et ce qu'il faut souligner également, c'est que la France est une des rares démocraties européennes à avoir tardé autant à accorder aux femmes le droit de vote et d'éligibilité. Ce n'est arrivé qu'en 1944. Oui. Elles ont participé pour la première fois au municipal de 1945. Et je dirais qu'il faut pointer le rôle discriminant du présidentialisme à la française, qui a induit l'idée d'une virilisation.
Il faut que ça change, madame Sino. Et je vous coupe la parole, et ça, c'est pas très poli, mais on est déjà très en retard, malheureusement. Donc il faut que ça change, pourquoi pas, la prochaine fois. On marque une pause, à tout de suite.
RTL Midi, avec Amandine Bégaud et Pascal Praud.
Et à 12h53, le deuxième débat d'RTL Midi, alors que la troisième dose, la dose de rappel, est officiellement administrée à partir d'aujourd'hui en EHPAD, on a choisi de s'arrêter un instant sur la situation sanitaire. Avec vous, Sophie Orange, bonjour.
Bonjour.
Est-ce que l'épidémie régresse vraiment ?
Ah vraiment, c'est très net. Depuis un mois, on a des baisses sur le taux d'incidence et le nombre de nouveaux cas pour 100 000 habitants sur 7 jours, de moins 20, moins 25, moins 27%, c'est quand même beaucoup. Ça veut dire qu'aujourd'hui, aujourd'hui, on est à, allez, en moyenne par jour, 10 000 nouveaux cas, alors qu'au mois d'août, c'était plutôt au-delà de 30 000. Donc clairement, l'épidémie régresse. Là, c'est une certitude, la quatrième vague est loin derrière nous.
Et ça, c'est grâce au pass sanitaire ?
C'est grâce au pass sanitaire. Qu'est-ce qui a changé depuis le mois de juillet ? C'est pas le respect des gestes et barrières. J'ai même presque tendance à dire que ça se relâche. Donc non, le pass sanitaire. Pourquoi ? Parce que si vous voulez désormais, dans un endroit à risque, c'est-à-dire un endroit, un restaurant où on enlève le masque, sont réunis des gens vaccinés ou des gens dont le test PCR est négatif. Alors le risque zéro n'existe pas, mais c'est sûr qu'on prend beaucoup moins de risques, que le virus circule beaucoup moins qu'avant, où il y avait dans le même restaurant des gens qui étaient peut-être positifs mais qui n'avaient jamais fait de test. Donc c'est le pass sanitaire qui a permis de faire baisser l'épidémie.
C'est pas tant le pass sanitaire que la vaccination.
Et parce que dans le pass sanitaire, il y a aussi le test PCR que les personnes font dans les 72 heures avant le restaurant, avant la fête.
Mais si, par exemple, la vaccination avait été déclarée obligatoire, on aurait les mêmes résultats.
Oui, mais le pass sanitaire. Oui, mais si on montre pas dans un endroit où on arrive que la vaccination, qu'on est vacciné, voilà, c'est le pass sanitaire qui est un moyen de prouver qu'on est vacciné. Après, même si la vaccination avait été obligatoire, il aurait fallu sans doute à un moment prouver qu'on était vacciné. Mais c'est pas la voie qu'a choisi la France, effectivement, de ce pass sanitaire qui est aujourd'hui regardé par le monde entier.
Justement, il entre en vigueur aujourd'hui en Suisse. Écoutez le ministre suisse de la Santé.
C'est comme si depuis un mois, on avait tous les matins en ouvrant le journal, un crash d'un bus dans un ravin, tout le monde à l'hôpital, un tiers aux soins intensifs, 7 morts. C'est ça qu'on essaie d'empêcher.
Empêcher l'hécatombe qui a lieu actuellement en Suisse, c'est pour ça qu'ils mettent en place ce pass sanitaire.
Voilà, donc très très largement après la France, des pays qui n'ont pas mis en place le pass sanitaire, comme l'Allemagne par exemple, n'arrivent pas à endiguer cette quatrième vague, parce que la vie continue comme avant. Voilà, donc au Danemark, le pass sanitaire a été mis en place bien en amont, c'est-à-dire au printemps. Aujourd'hui, le Danemark, depuis vendredi, vit sans masque, sans passe, sans restriction. Voilà, alors, aujourd'hui la France est regardée dans le monde entier, parce que
pour une fois,
tout le monde regarde tout le monde. Voilà, peut-être que la prochaine fois, on regardera un autre pays, mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, la France est regardée. Les experts qu'on interroge vous le diront, dans les réunions internationales, tout le monde scrute la France. On prend le meilleur des expériences de chaque pays. Et en ce moment, le pass sanitaire mis en place en France a bien fonctionné. Au mois de juillet, figurez-vous, il y avait quand même 20 millions de personnes qui se sont fait vacciner. Il y a eu des journées à 800-900 000 vaccinations.
Les chiffres parlent et effectivement, ils sont incontestables. Ce qui est intéressant également, c'est que ce pass sanitaire a été bien ressenti par tout le monde. C'est-à-dire qu'on imaginait que ça se passerait mal, que les restaurateurs perdraient du temps, que les consommateurs rechigneraient. À l'arrivée, il y a zéro problème.
Et même en amont, comment imaginer quand même en quelques mois, en Europe, c'est-à-dire que dans tous les pays d'Europe, votre pass sanitaire est lu sans aucun bug. Enfin, c'est quand même une prouesse technologique, une prouesse des informaticiens, des ingénieurs qui ont pensé un système qui est lu dans l'Europe entière, même dans le monde entier. Enfin, je veux dire, c'est quand même cette histoire de QR code. Alors, bien sûr, il faut avoir un smartphone. Ceux qui n'en ont pas ont toujours la version papier, mais il faut quand même aussi saluer ça. Et bien sûr qu'on entend toujours les grincheux avant, ça va mal se passer, il y aura des queues, etc. Il n'y a pas de queue devant les restaurants. Le pass sanitaire, on s'assied, tout le monde l'a vécu. Donc, on peut le dire que c'est une réussite.
Bien sûr. Merci beaucoup. Les fées Carabosse ont souvent le bon rôle au-dessus du berceau. Mais effectivement, lorsque les choses se mettent en place, parfois elles sont démenties. Monsieur Baudin, il fait de plus en plus beau au mois de septembre. L'année prochaine, je prendrai mes vacances en septembre.
Oui.
Voyez-vous, je le dis à la direction, il est 12h57. On va marquer une pause, ça sera le flash. Et puis, vous pourrez intervenir, évidemment, avec les auditeurs. À tout de suite.
RTL Midi. Suivez RTL en vidéo sur rtl.fr.
RTL. Il est 13h pile.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.